Oui, il était vraiment juste que notre organiste nous accueille ce matin avec une bataille, car j'espérais bien vous offrir en quelque sorte le deuxième volet de ce diptyque, commencé avec le récit de Jacob, luttant toute une nuit, tel que le livre de la Genèse nous l'a rapporté en son chapitre 32. Et aujourd'hui, pour ce deuxième volet, en quelque sorte, je vais tout d'abord vous lire le psaume 90, et puis ensuite je vous lirai un passage du Cantique des Cantiques. Tout d'abord, le psaume 90. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné au commencement de la terre et du monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme jusqu'à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure, le nombre de nos années s'élève à 70, et si nous sommes vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel. Jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et puis, dans un registre qui vous semblera peut-être un peu différent, dans le livre du Cantique des Cantiques, donc, un autre livre poétique de la Bible, au chapitre 3, nous lirons les 4 premiers versets. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Frères et sœurs, chantons au psaume 84 dans notre psautier français les strophes 1, 2 et 4 et levons-nous pour lancer ce psaume. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous t'en prions, fais que ce matin encore, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre. Qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour. qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre chemin. Chers frères et sœurs, 1000 ans sont donc dans les yeux de Dieu comme le jour d'hier. Ce verset, bien sûr, est fort d'une évocation poétique qui ne saurait nous laisser insensibles. Et c'est aussi un verset qui évoque assez bien, je crois, l'idée que la plupart des gens l'idée que la plupart des gens se font de Dieu et de sa grandeur. 1000 ans de notre histoire ne seraient qu'un jour, au regard de l'éternité, bien sûr. Oui, cette évocation correspond assez bien à l'idée que la plupart des gens se font de Dieu, de sa grandeur. Dieu infiniment grand à côté de nous, ridiculement petit. Pour autant, il me semble que cette vision théologique est assez peu conforme au message biblique. Elle ne me semble pas conforme à l'évangile prêché par Jésus-Christ, et il me semble que cette compréhension du psaume s'oppose assez à l'humanité que Dieu s'efforce de susciter selon les témoignages bibliques dans leur ensemble. Considérer que 1000 ans de notre histoire ne valent pas plus qu'un jour au regard de l'Éternel a même d'ailleurs des effets tout à fait désastreux, et c'est ce que j'aimerais mettre en évidence dans un premier temps. Il faut bien comprendre qu'en minimisant ainsi à outrance la vie humaine, l'histoire des hommes, les tenants d'une telle théologie en viennent à rendre inutile toute action, toute entreprise. Les tenants d'une telle théologie, où Dieu est tout et nous ne sommes rien, et même plus que cela, parce que si nous sommes un tant soit peu quelque chose, Dieu s'efforce de nous réduire à rien, à néant. Eh bien, les tenants d'une telle théologie ramènent toute vie, toute trajectoire à n'être en fin de compte qu'un détail dans l'histoire de l'humanité. En minorant ainsi l'importance de la vie des hommes, en réduisant à presque rien les trajectoires biographiques, les tenants d'une telle théologie considèrent que ce que nous faisons aujourd'hui n'a qu'une signification minime, infime, ou pire, que ce que nous faisons aujourd'hui est tout simplement inutile. J'en ai eu l'illustration à l'occasion d'une discussion théologique, par exemple, sur le récit de la femme adultère, telle que nous la lisons dans l'Évangile selon Jean. La discussion avait débouché sur la notion de pardon. Et certains défendaient un pardon possible pour cette femme, une vie nouvelle possible. J'en étais. D'autres affirmaient, bien au contraire, qu'il n'était pas possible d'être pardonné de son vivant. Que seul Dieu peut pardonner. Que l'homme en est donc réduit à n'être qu'un objet en attente du jugement de Dieu. Jugement, bien entendu, reporté à une vie au-delà de la vie présente, au-delà de la mort. Et c'est ce qui justifiait que, dans certains pays, des femmes, prises en flagrant délit d'adultère, puissent être tranquillement lapidées. Seul Dieu peut pardonner. Et dans leur esprit, cela tient au fait qu'aujourd'hui n'est rien. Rien d'autre qu'une infime poussière au regard de l'éternité. Autre exemple, pris dans la vision bouddhiste notamment, où la vie n'est qu'une forme d'illusion, à vrai dire, un état qu'il faut s'efforcer de supprimer, d'éteindre, pour être tout à fait fidèle au terme nirvana, qui signifie l'extinction. Le but de la vie, c'est d'en finir avec la vie. Et l'un des principes fondamentaux est que la vie est impersonnelle. Ce que nous vivons ne compte pas. Ce que nous sommes ne compte pas. Ce qu'il faut, c'est rejoindre le grand tout. Le reste n'est que souffrance inutile. Eh bien, c'est bien sûr cette vision des choses, cette vision théologique, qui justifie le maintien des castes. Car, évidemment, dans cette vision des choses, ce n'est pas dans ce monde-ci qu'on trouvera quelque forme d'accomplissement que ce soit pour notre vie. Aujourd'hui n'est rien, absolument rien, au regard de ce qui nous attend. Il est donc tout à fait inutile, dans cette vision théologique du monde, de se préoccuper de la justice sociale. Laissons tout en l'état, comme cela, Dieu reconnaîtra les siens. Et je ne peux m'empêcher de prendre aussi l'exemple de l'œcuménisme et d'observer ce scandale qui consiste dans le fait que les uns refusent de communier avec les autres. Eh bien, les tenants de cette lecture théologique peuvent effectivement considérer qu'il suffit de se satisfaire de cet état de fait. Alors bien sûr, comme il faut quand même montrer de la bonne volonté en matière d'œcuménisme, eh bien, on se réfugie derrière un au-delà de l'histoire. Et on renvoie à un jour. Un jour où nous verrons. Un jour où les esprits seront bien disposés. Oui, un jour où, bien sûr, la communion entre chrétiens sera possible. Un jour. Un jour à la manière de celle qui chante qu'un jour son prince viendra. Un jour. Et cela peut justifier qu'aujourd'hui on puisse se résigner, se croiser les bras et attendre. Mais attendre quoi au juste ? Faut-il attendre comme la femme du Cantique des Cantiques qui espère que son lit va soudainement se garnir de l'être aimé ? Miraculeusement, comme ça ? Qui espère que en soulevant son drap, en cherchant sous l'oreiller, l'être aimé va soudainement apparaître, comme par enchantement. Ce n'est qu'à la condition de se lever et de se mettre véritablement en quête qu'elle va le rejoindre, cet être aimé. Et encore, ces premières démarches sont tout à fait insuffisantes. Elle doit faire preuve de ténacité, demander à droite et à gauche, aller de ci, de là, pour finalement le trouver, son bien-aimé. Pas de passivité, mais une démarche active. Il n'est pas question pour elle de se dire « Bah, de toute manière, ça ira mieux plus tard. Ça arrivera bien un jour. Et puis, après tout, cette vie ici-bas. Bah, cette vie ici-bas n'est pas grand-chose au regard de l'Éternel. Alors, inutile de se faire du mauvais sang. Un jour... Voyez pourquoi je trouve cette théologie terriblement démobilisatrice et surtout contradictoire avec ce que Dieu nous propose de vivre. Et cette contradiction, le fait que cette interprétation ne me semble pas fidèle au texte, je la trouve dans ce psaume 84, au verset 11, que nous avons chanté justement dans cette strophe 4. Un psaume qui dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Un jour auprès de Dieu vaut plus que mille jours loin de lui. Le voilà, ce rapport. Ce rapport de 1 à 1000 n'exprime pas la brièveté de notre vie, qui est alors évidemment ridicule face à l'éternité. Ce rapport exprime bien au contraire la qualité de ce qui est vécu, ou pour le dire avec les termes de la science physique, ce rapport exprime l'intensité de ce qui est vécu. Alors contre une théologie qui réduit l'homme à néant, car la durée de sa vie serait insignifiante, 70 ans, 90, 100 pour les paroissiens de l'oratoire qui sont un peu plus vaillants qu'ailleurs peut-être, eh bien, contre une théologie qui réduit l'homme à néant, je crois que la Bible, au contraire, nous propose une théologie qui développe la qualité comme mesure première de l'existence. Et c'est ce qu'exprime, à sa manière, le poète John Keats, qui dit, je le cite, « Je rêve que nous sommes des papillons, n'ayant à vivre que 3 jours d'été. Avec vous, ces 3 jours seraient plus plaisants que 50 années d'une vie ordinaire. » Eh bien, voilà ce que nous pouvons entendre dans ce psaume, frères et sœurs. Au lieu d'entendre que nous ne serions que quantité négligeable, nous pouvons entendre que Dieu est au contraire celui qui intensifie notre vie, de telle sorte que ce qui pourrait passer pour une journée fugace se trouve être investi de la valeur de 1000 ans. Oui, c'est ce que ce psaume exprime, me semble-t-il, contre une lecture trop superficielle qui s'en tient aux stéréotypes, qui arrange ceux qui veulent, pour des raisons obscures, que Dieu soit cruel. Reprenons ce verset 3. Lorsque la traduction française propose, telle que je vous l'ai lue, « Tu fais retourner l'homme jusqu'à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. » Tout le monde entend que c'est Dieu qui ramène l'homme à la poussière, qui l'humilie plus bas que terre, qui le tue en quelque sorte. Il me semble que c'est là un contresens. C'est là un contresens parce que le terme « chouve » qui est utilisé exprime le demi-tour. Et que dit le texte? Il dit que Dieu s'efforce de nous faire faire demi-tour. Dieu s'efforce de nous faire faire demi-tour lorsque nous empruntons un chemin terriblement mortel, un chemin qui nous conduit inexorablement vers la poussière. Dieu est celui qui s'efforce de nous faire demi-tour pour éviter justement que nous mordions la poussière. Et le texte hébreu ne dit pas que Dieu nous fait retourner vers la poussière, mais que Dieu s'efforce de nous retourner. Et il le fait jusqu'à ce que nous atteignions la poussière peut-être. Il le fait aussi loin que possible. Ce terme chouv a un sens théologique qui est celui de la conversion. Dieu qui essaie de nous convertir. Dieu qui essaie de nous faire faire demi-tour lorsque décidément nous nous obstinons sur un chemin mortifère. Et la suite du verset le dit bien. Si Dieu était cet être cruel qui inlassablement s'efforce de nous assassiner, alors il utiliserait d'autres moyens que la parole. Car c'est par la parole que Dieu nous demande de faire demi-tour. Et vous savez à quel point on peut ne pas écouter une parole. Alors, si Dieu était vraiment ce Dieu tout puissamment cruel, eh bien, ce n'est pas par la parole qu'il agirait. Ici, Dieu essaie de nous convertir, de nous conseiller pour que nous orientions notre vie sur d'autres chemins que des chemins de perdition. Oui, Dieu est celui qui nous demande de faire demi-tour parce que nous avons cette faculté incroyable d'emprunter des chemins qui sont des chemins de poussière. Et ce que Dieu souhaite, lui, c'est que nous empruntions des chemins où une véritable intensité soit injectée dans notre existence. Faire en sorte que chaque jour de notre vie valent effectivement 1000 ans. Oui, Dieu est celui qui est capable d'intensifier notre quotidien, celui qui est capable de donner de l'épaisseur à notre vie, celui qui peut nous enseigner une nouvelle manière de compter nos jours, en cessant d'additionner les jours, en cessant d'additionner les années, pour savoir ce que vaut vraiment notre vie. Car c'est l'intensité qui exprime vraiment ce que vaut notre vie. Et cela aussi, c'est ce que nous trouvons dans ce psaume. Lorsque le psalmiste demande à Dieu qu'il nous enseigne à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse, apprendre quelle est la véritable arithmétique de la vie. Et puis, vous avez entendu dans ce psaume tout un tas d'autres choses terrifiantes. Vous avez entendu, par exemple, au verset 15, le psalmiste qui dit « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. » Dieu qui nous humilierait. Mais c'est le verbe « ana » qui est utilisé dans le texte hébreu. Le verbe « répondre ».« Réjouis-nous autant de jours que tu nous as répondu. » Autant d'années que nous avons vu le malheur. Et oui, parce qu'il y a effectivement quelque chose de terrible à mettre sa vie en lumière. C'est de découvrir qu'il y a de terribles zones d'ombre. Mais cela n'est pas une fatalité en soi. Il suffit de faire demi-tour. Il suffit de retourner, de revenir. C'est tout cela le sens de ce psaume. Non, Dieu n'est pas celui qui nous accable, n'est pas celui qui nous enfonce. C'est celui qui, effectivement, met un peu de lumière et qui s'efforce d'intensifier notre vie. Alors, il me semble que cette théologie autorise bien des choses que la théologie de la peur et de la cruauté rend caduques. Cette théologie de l'intensification, cette théologie de l'intensification de la vie nous autorise et même nous encourage à agir dans ce monde-ci. Au lieu de faire de nous des êtres tout tremblants, qui craignons à chaque instant d'être réduits à rien par Dieu, cette théologie nous dit qu'au contraire, Dieu est celui qui redonne de l'intensité à notre existence. Nous n'avons pas à attendre un jour où ça ira mieux. Lorsqu'il proclame qu'il fait le rêve qu'un jour sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Le pasteur Martin Luther King ne se tourne pas les pouces. Il ne se dit pas « ça arrivera bien un jour, c'est le cours de l'histoire » ou alors « ça n'arrivera peut-être jamais et c'est Dieu qui, dans son infinie bonté, réglera ça plus tard dans un paradis ». Non, il ne renvoie pas à cela un hypothétique avenir, il s'emploie à ce que cela advienne en agissant. Lorsque nous décidons à La Clairière, ce centre d'action sociale fondé par notre paroisse il y a bientôt 100 ans, qu'il faut refaire la maternité de ce village de Dambankané, au Sénégal, là où nous organisons des séjours pour des jeunes en errance totale, parce que nous refusons qu'ils mordent la poussière dans le quartier des Halles, parce que nous considérons que l'alcool, la drogue, la mendicité n'est pas le lit dans lequel ils pourront miraculeusement trouver l'amour de leur vie, ou tout simplement une vie aimable. Et en organisant ces voyages, leur permettre de rendre service et de trouver ainsi enfin un peu de dignité. Eh bien, lorsque nous décidons de refaire cette maternité, là où 10 femmes accouchent chaque jour et font mieux de n'y rester qu'1h30 parce qu'au-delà, ça devient plus dangereux de rester dans la maternité que d'en sortir. Cette maternité qui manque de tout et pour laquelle il nous faut fournir aussi bien le petit matériel médical, stéthoscope, pèse-bébé, spéculum, que du paracétamol ou même, voyez-vous, des portes pour éviter que les animaux ne pénètrent dans l'enceinte de cette maternité. Eh bien, c'est au nom de ce Dieu qui s'efforce de nous éviter de mordre la poussière. Ce Dieu qui veut que notre vie soit intense et qui ne peut se satisfaire que nous soyons passifs, démobilisés ou capables de renvoyer la solution à un autre jour. Cette intensité de vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est ce qui nous autorise aussi à mener plusieurs projets à la fois, parce que Dieu nous en rend capables. Cette intensité de vie, c'est ce qui nous autorise à aller explorer les étoiles et à y consacrer de l'argent, beaucoup d'argent, alors même que tous les problèmes ne sont pas encore résolus sur cette terre. Parce que cette intensité que Dieu crée en nous est telle qu'elle nous rend capables, dans les faits, d'aller dans l'espace, tout en réglant les problèmes de nutrition, de faim, de mortalité infantile et d'éducation. Ce n'est pas parce que certains préfèrent avoir une vie digne d'une peau de chagrin, que d'autres préfèrent ne s'occuper que du nombre de leurs propres années, que d'autres bottent copieusement en touche et renvoient la possibilité d'un monde meilleur à l'au-delà. Ce n'est pas parce que certains préfèrent agir ainsi qu'il faut imputer cela à Dieu. C'est l'homme qui est pleinement responsable d'employer convenablement tout ce qui est à sa disposition. Alors, avec le combat de Jacob, nous avions vu que Dieu intervient dans notre histoire pour créer une tension féconde, c'était le sens de cette lutte, toute une nuit de veille. Vous voyez comme une veille n'est pas un moment de paresse et de somnolence. La veille est le moment de la lutte. Eh bien aujourd'hui, nous voyons que Dieu intervient aussi pour intensifier notre quotidien. Pas simplement pour donner de la tension, mais aussi de l'intensité. Et les physiciens savent que lorsque la tension et l'intensité sont conjuguées, nous obtenons alors la puissance. La puissance d'un courant électrique est le produit de la tension et de l'intensité du dit courant. Et bien précisément, Dieu nous pouvons en parler comme cette puissance que les croyants éprouvent au plus profond d'eux-mêmes et qui leur permet de mettre leur vie en lumière, et non pas à 10, 20, 30 ou 40 watts, mais au moins du 1000 watts par jour. Dieu est cette puissance que les psalmistes ont éprouvée et dont ils ont laissé l'empreinte dans ces prières, ces psaumes, qui au fil des siècles ont pu rendre aux personnes en difficulté l'intensité qui leur manquait, de l'intensité dans leur faiblesse, de la dignité dans leur humiliation. Dieu est cette puissance qui pousse le héros du Cantique des Cantiques, ce poème biblique de l'amour, à partir en quête de l'être aimé au lieu de se résigner à le perdre. Dieu est cette puissance qui anime les amoureux de la vie à poursuivre leur route, à remuer ciel et terre, plutôt qu'à se morfondre et à se désoler. Dieu est cette puissance qui agit en nous pour que nous qui, parfois, pensons n'être qu'un détail de l'histoire de l'humanité, nous puissions nous rendre compte qu'en fait, bien trop souvent, nous avons peut-être vécu en sous-régime. Alors, grâce à Dieu, nous pouvons retrouver de l'allant, cette capacité à agir plutôt qu'à subir, cette capacité à créer les conditions d'une vie bonne plutôt qu'à attendre passivement que ça aille mieux, un jour, comme si le temps était un être qui agit. De ce point de vue, la mythologie grecque a raison. Le temps est comme Chronos. Il ne fait rien d'autre qu'engloutir tout ce qui lui passe sous la dent. Ceux qui se fient à l'Éternel sont de ceux qui refusent de dépérir tranquillement et de mordre la poussière. Ce sont ceux qui résistent à l'outrage du temps et qui s'engagent de tout leur être dans cette vie renouvelée par Dieu, une vie où chaque jour vaut bien 1000 ans. Amen.